fait tomber les mafieux. Celui qui se rend intouchable, il est audacieux. Regardez tous les types. C'est le genre de femme qui fait prendre ce qu'elle veut. Je crois bien que je l'ai choqué. Mademoiselle n'a pas l'habitude d'être bloquée. Déstabilisée. Quand je refuse, ça lui donne envie de me croquer. Elle dit vraiment, quand tu refuses notre corps à corps, tu mens. Y'a aucun homme qui ne veut pas mon corps. Donc je suis dit, j'ai déjà trouvé mon amour, je l'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé ce que tu donnes, je l'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé mon amour, je l'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé ce que tu donnes, je l'ai déjà trouvé. Jamais de la vie tu m'auras. Quand je serai célibataire tu le sauras. Pour te remonter le moral, dis-toi qu'il y a toujours plus fort que soi-même. Je te dis bye bye bye. Je m'en vais, ne m'attends pas bye bye bye. Non non. Je te dis bye 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 bye. Je m'en vais, ne m'attends pas bye bye bye. Jamais de la vie tu m'auras. Quand je serai célibataire tu le sauras. Pour te remonter le moral, dis-toi qu'il y a toujours plus fort que soi-même. Je te dis bye bye bye. Je m'en vais, ne m'attends pas, 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 pas. No, no.
Le 25 mars, si elle approuve une demande de remise à la Belgique de la chanteuse malienne Rokia Traoré, écrouée en France après un mandat d'arrêt européen lié à un litige sur la garde de sa fille, selon une source judiciaire. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a examiné aujourd'hui cette demande formulée par la justice belge et mis sa décision en délibéré. L'avocat de Mme Traoré, Maître Kenneth Féliou, était injoignable aujourd'hui. La célèbre chanteuse malienne a été arrêtée le 10 mars à l'aéroport parisien de Roissy à sa demande d'un avion en provenance de Bamako et a été écrouée. Ici aux États-Unis, primaire démocrate, la pression s'accentue sur Bernie Sanders qui va faire le point sur sa campagne dans la course à la Maison-Blanche après une nouvelle série de défaites dans les primaires démocrates face à Joe Biden. Le sénateur indépendant est reparti dans le Vermont pour évaluer dans les prochaines semaines ses chances d'être celui qui affrontera Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre, a indiqué son équipe de campagne au lendemain de la claque prise dans les trois États en jeu. Toujours concernant les États-Unis, l'échange de prisonniers entre le gouvernement afghan et les talibans, prévu dans l'accord entre les USA et les rebelles, mais resté lettre morte, est rendu urgent par la propagation du coronavirus et doit intervenir dès que possible, a déclaré ce mercredi l'émissaire américain Zalmay Khalilzad. Aucun prisonnier n'a été libéré malgré l'engagement exprimé en ce sens par les deux parties, a-t-il déploré sur Twitter. En sport, la Ligue de football professionnel anglaise va débloquer 50 millions de livres pour aider les clubs mis en difficulté financière par la suspension des championnats à cause du coronavirus, a-t-elle annoncé ce mercredi. Des mesures vont être mises en place pour aider immédiatement les clubs. Et le patron de la Fédération italienne de football, Gabriel Gavina, espère que la Serie A pourra reprendre le 2 mai et se finir au plus tard en juillet. Et pour terminer, John Obi Mikel quitte son club à cause du coronavirus. C'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant...
Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Deux questions d'étiquette dans le milieu des affaires. Première question, les Américains dans les milieux d'affaires utilisent-ils leur prénom ou leur nom de famille?
Do Americans usually use their first name or last name in business?
First name, c'est le prénom. My first name is Michelle. Last name, nom de famille. My last name is Joseph. What is your first name? Quel est votre prénom? À vous de me répondre. What is your first name? What is your last name? Quel est votre nom de famille? Répondez-moi. What is your last name? Comme vous allez entendre, pour Gary, c'est une question difficile.
This is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you.
This is a difficult question. C'est une question difficile. To be safe, use the name that the other person gives you. Pour être sûr de ne pas faire une gaffe, to be safe, donnez-lui le nom qu'il ou elle se donne, le prénom ou le nom de famille. Gary dit, quand il se présente, Please, call me Gary. Veuillez m'appeler Gary. Please, call me Gary. C'est ainsi que vous donnez la permission à l'autre personne de vous appeler d'une certaine façon. Écoutons la conversation qui suit à propos de la première question.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, please call me Gary.
Gary dit, I always say, je dis toujours, always. I always say, please call me Gary. Littéralement, s'il vous plaît, s'il te plaît, appelle-moi Gary. Appelle-moi Gary. Please call me Miss Joseph. Please call me Mrs. Joseph. Ce qui nous amène à la prochaine question d'étiquette. Elizabeth demande à Gary, When speaking with women in business, quand on parle à des femmes dans un contexte d'affaires ou professionnel,
When speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms?
When should we use, quand doit-on se servir de? When should we use Miss, Mrs. or Ms? Miss, mademoiselle, ou comme le dit Gary, for single women, pour les femmes célibataires, single women, les femmes célibataires, miss, ou bien Mrs., madame, for married women, pour les femmes mariées, for married women.
Well, miss is for single women, Mrs. is for married women.
Ou encore, Ms., un mot nouveau qui est neutre et n'implique pas le statut de célibataire ou de marié à la femme en question.
Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married.
Écoutez la conversation qui suit.
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.?
Well, Miss is for single women. Mrs. is for married women. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary.
Finissez la phrase. Vous allez entendre le début et vous devez terminer la phrase. Écoutez et finissez la phrase.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name.
Le nom de famille.
They prefer to use their last name.
Le nom de famille.
Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms.
Ms, c'est neutre.
In the past, people used to address all married women as Mrs.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time. À la prochaine fois. Ici Michel Joseph. Hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h temps universel sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com et en ondes courtes le samedi et le dimanche à 20h temps universel. Ne ratez pas English USA. English USA vous présente African Voices in Conversation. Des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Bala est le tailleur le plus populaire de son quartier. Aujourd'hui, sa cliente et cousine, Rama, lui rend visite. Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu. Vous répondrez par vrai ou faux, true or false, à ces énoncés. 1. Rama voulait une jupe. 2. Le boubou est pour la belle-mère de Rama. Vous allez maintenant répondre à ces trois questions. 1. Est-ce que Bala a tenu sa promesse? 2. Pour qui sont les boubous selon Bala? 3. Est-ce que Bala a déjà fait le boubou pour Rama? Vous entendrez comment exprimer un choix avec « I'd like to ». Vous entendrez comment se plaindre en utilisant l'expression « n'est-ce pas » en anglais? Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu.
Hello, Bala. I want you to show me all your styles. Have you got catalogs? Let me see them.
Right away. My customers are all kings and queens in this shop.
Oh, Bala, stop it. You haven't finished my dress, have you?
I'm at the service of my royal clients. I do things the way they want it.
What is this? Is this a dress or a skirt? It looks like a child's dress.
It's not. It's a young girl's mini dress with beads and a scarf.
How lovely. It's very nice. I'd like you to make me a dress like this with flashing beads and colorful embroidery.
Like a rainbow. Is it going to be for you or for your daughter?
For me. I have no daughter and my son is only 2 years old. I am still young.
Don't get angry now, Rama. I'm gonna make it.
Before I forget, where is the boubou I asked you to make last week?
Rama, you've got so many fabrics here. You always change your mind, don't you?
I told you to make a boubou from the wax fabric I brought last week. You didn't keep your promise, did you?
It will be ready tomorrow. It's for your old grandmother, right?
I told you it was for my mother-in-law. Instead of a mini dress, I'd like a mini skirt. And don't forget my mother-in-law. I'd also like an evening gown for her.
What does your mother-in-law need an evening gown for?
Come on, Bala. She's not that old. She's going to see her husband after 4 years of separation.
All right, then. I'll make it. Anything for love. Say, Rama, your father-in-law needs a boubou as well, doesn't he? I can make one for tomorrow.
Ya Allah. So many things to make. You don't want to be overworked, do you?
Hey, as long as I get paid.
Vous avez entendu dans ce dialogue Bala et Rama. L'énoncé 1 est faux. Rama voulait une jupe. L'énoncé 2 est vrai. Le boubou est pour la belle-mère de Rama. Voilà les réponses aux questions. 1. Est-ce que Bala a tenu sa promesse? Non. 2. Pour qui sont les boubous selon Bala? Pour les personnes âgées. 3. Est-ce que Bala a déjà fait le boubou pour Rama? Pas encore. Vous avez entendu Rama dire
« I'd like a mini skirt ».
On peut exprimer un choix en utilisant l'expression « I'd like ». Écoutez les autres exemples. « I'd like to take the red dress ».
I'd like to visit the stadium, not the school. I'd like to drink tea. I don't drink coffee. Vous avez aussi entendu Rama et Bala dire
You haven't finished my dress, have you?
You always change your mind, don't you?
Pour dire n'est-ce pas, en anglais, elle a utilisé le tag question ou forme n'est-ce pas. Lorsque la phrase est négative, le tag question est affirmatif. Lorsque la phrase est affirmative, par contre, le tag question est négatif. Voilà des autres exemples. Rama was angry, wasn't she? Bala made the dress, didn't he? Répétez maintenant ce vocabulaire de la couture et de la mode. Modèle, styles. Jupe, skirt. Foulard, scarf. Robe, dress or gown. Perles, beads. Broderie, embroidery. Vous avez entendu dans ce dialogue Bala et Rama exprimer un choix avec I'd like to. Vous avez aussi entendu comment dire n'est-ce pas en anglais et entendu des mots relatifs aux vêtements. On se donne rendez-vous chez Bala le tailleur. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov. Bienvenue à l'Anglais Express. Connaissez-vous le patin à glace, ce sport que l'on fait en hiver qui consiste à glisser sur des surfaces gelées? Eh bien, nous allons découvrir une expression idiomatique qui a à voir avec le patin à glace, mais qui se dit toute l'année. Skating on thin ice. Suivons cet exemple.
Oh, I'm thinking about calling in sick to work. I just don't feel well. But I've already missed a few days this month.
Well, you don't want to miss too much work. You could be skating on thin ice with your boss.
S'il vous arrive de faire du patin à glace sur une mare ou un lac gelé, vous ne pouvez pas toujours vous rendre compte de l'épaisseur de la glace, d'où le grand danger caché d'une possible rupture de la glace. Skating on thin ice, cela veut dire faire quelque chose qui pourrait vous attirer de gros problèmes. Tout comme dans l'exemple que nous avons suivi. Ne pas aller au travail pendant plusieurs jours. That's skating on thin ice. Cela pourrait vous attirer des ennuis. Et voilà pour l'Anglais Express.
Aujourd'hui, Martin Lerner fait une interview avec un professeur d'histoire. Today, Martin Lerner is interviewing a history professor. Il lui pose des questions sur la guerre civile américaine. He's asking him questions on the American Civil War. Tous les deux se trouvent dans un champ de bataille. They are in a battlefield. Au cours de cette leçon, vous apprendrez à comparer des événements différents. Dans le présent, dans le passé et dans une même époque. English USA est diffusé en direct de Washington au micro Michel Joseph. Vous allez apprendre à comparer des événements qui se sont déroulés dans le passé. Martin Lerner parle avec un professeur d'histoire américaine, a professor of American history. Au sujet de la guerre civile. About the Civil War. Il dit A group says the reason was slavery. Un groupe de gens disent que la raison de cette guerre était l'esclavage. Some say it was economics. Certains disent que c'était à cause de raisons économiques.
I wanted you to see the battlefield. I see what you mean. It's just open area. It was fields. There were farms here and a few houses. Where did the battles take place? Everywhere you can see. Soldiers from the north were on that hill. Soldiers from the south were over there, somewhere in front of those woods.
In fact, where those men are right now.
Yes, those men who are firing guns are acting out the early part of the battle. They are pretending to be soldiers during the Civil War.
Professor Atkins, why did the war begin?
That's a very difficult question. People seldom agree on the reasons for a war. Historians are still arguing about the reasons for the Civil War.
I suppose there are usually many reasons.
Yes. One group says the reason was slavery. Another group says it was politics. And another group says it was economics.
That's quite a few reasons.
We look at those reasons differently, too. In the Civil War, the fighting usually took place in open areas, like this.
Explain that, please.
The battles were often on farms. The soldiers were on hills and in valleys. They didn't fight in the cities.
In modern wars, they fight everywhere.
Pour comparer deux événements, on les place dans une période déterminée. Lorsqu'on parle, par exemple, de Civil War, et on dit de la guerre civile, et on dit More than 600,000 soldiers died. Plus de 600 000 soldats sont morts. On peut aussi parler d'une autre guerre et du nombre de soldats tués par rapport à celle-ci. Par exemple, in the Civil War, more than 600,000 soldiers died. In the First World War, dans la Première Guerre mondiale, un tel autre nombre sont morts. Écoutez les exemples qui suivent.
In the Civil War, more than 600,000 soldiers died. More recent wars have been worse for civilians. In the Civil War, the fighting usually took place in open areas. In modern wars, they fight everywhere.
Répondez aux questions de Martin et commencez vos réponses en mentionnant une période déterminée. Il vous demandera, par exemple, Where were you living 1 year ago? Où viviez-vous il y a un an?
More than 600,000 died in the Civil War.
About 116,000 died in World War I.
Most of the battles were in Europe.
There were none in the U.S.
Essayez de répondre aux questions de Martin, mais écoutez d'abord l'exemple qui vous est donné. L'exemple. Martin dit quelque chose et le professeur répond aussi en disant quelque chose d'autre. Toujours en parlant dans le passé. Donc c'est une comparaison. 45 people lived in this building. 45 personnes vivaient dans ce bâtiment. Le professeur dit lui aussi 15 people lived in that building. Une quinzaine de personnes vivaient dans ce bâtiment. Maintenant, à vous d'essayer.
45 people lived in this building.
15 people lived in that building.
On Monday, I go to work.
On Monday, I go to work. Vous pouviez dire On Friday, I go to work.
I lived in Chicago.
Et vous, vous pouvez répondre, I lived in Kinshasa.
On Friday, we went to town.
Et vous, vous pouvez dire, on Saturday, we went to town. On entend souvent dire que tout change. Vos parents, par exemple, vos grands-parents, décrivent leur vie, leur enfance, comme si c'était un autre monde. Et ils ont raison, la vie change rapidement. Donc, au lieu de faire la comparaison d'une guerre, pensez plutôt à votre vie en la comparant à celle de vos parents ou à celle de vos grands-parents. Comparez les changements que vous observez. In the meantime, entre-temps, have a great practice. Welcome to Anglais Télé. I'm Michelle Joseph. I'm my co-host.
And I am Roger Muntou.
And we're going to talk about the opposite of work, leisure, la détente. And to help us understand leisure, we're going to use verbs, adjectives, nouns, and you are going to build a sentence describing how you do your leisure.
Exactly. And, of course, they'll use all these other words and, you know, how to relax, how to rest, and exactly how to... Laughing can be a leisure, too,
definitely,
isn't it? Joking can
yes,
be, right?
Absolutely.
Playing.
Playing.
Exactly.
Playing with your baby.
That's right.
Playing with your dog.
That's right. Exactly. And Marie-Rose Bora told us so many things that she likes to do. We'll talk to her in a second.
Definitely.
But I guess we have... don't we have somebody who's coming to talk to us? Somebody just joined us?
Yes. Let's warm up.
That's right.
Leisure.
La détente. Leisure, c'est ça. That's right. That's what it is in French. La détente.
Let's breathe a bit.
After working so hard, you need leisure.
We
you need
work
la
hard.
Détente. Yes, exactly. I don't know if our next guest, Michelle, works so hard.
Well, we'll find out.
Let's find out if Adéché is there with us. Allô, Adéché.
Allô, bonsoir. Bonsoir, Roger.
Hello, how are you, my friend?
I'm fine.
You didn't say hello to Michelle. Michelle is here, too.
I'm waiting.
Hello, Michelle.
Hi, how are you?
I'm fine. Thank you.
Wonderful. Now,
how are you, Michelle?
Great. So nice to hear you. And, of course, we know that you're listening to us and you're talking to us in your time of leisure because you're not working right now, are you? You are not working.
Are you working?
Working.
Travailler.
Travailler in French. Est-ce que tu es en train de travailler en ce moment?
No. I know working.
Good.
No. Yes.
Yes. You are.
Thank God.
Good job, Adéché. Good job. Yes.
Okay.
Yes.
So, Adéché, what do you do to relax, to enjoy your time off when you're not working?
Reprenez, s'il vous plaît.
What?
Hello?
Yes, oui, Adéché. Working, c'est travailler. That's right?
Oui.
Et when you are not working, qu'est-ce que tu fais?
Donc, je peux répondre en français?
Oui, yes.
And we'll translate.
Donc, quand je ne suis pas en train de travailler, je suis Facebook, en train de causer avec les amis, ou encore en train de manger peut-être, ou encore en train de regarder la télé.
All right, so why don't we stop him there and recap in English?
When I'm not working, I use Facebook. I watch TV.
When I'm not working.
Yes, I use Facebook.
When I'm not working, I'm on Facebook, I watch TV.
Très bien.
Excellent.
Wow. Ah, mais il apprend vite,
Adéché. Very good.
Very good.